Moi, ce que j'aime particulièrement, c'est avoir des salades pendant tout l'hiver.
La chicorée, la scarole, la frisée.
Tout à l'heure, c'est encore une fois une salade. C'est une plante qui a besoin de froid. En fait, c'est le cœur d'une chicorée. Et ça mange avec une vinaigrette à base d'ail, anchois, huile d'olive et vinaigre. Et c'est une délice. C'est un petit point amer, sans l'être trop.
Le goût de la salade, une fois cuite, est décuplé. Composée à 80% d'eau, elle réduit fortement à la cuisson.
La salade au four, je n'avais pas fait encore. C'est une certaine émotion quand même, forcément, parce que la salade et moi, c'est une grande histoire.
Vous ne connaissez pas, vous, ces biscuits de salade. Moi, c'est l'Ivar au Beaujolais.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont on va déguster. Dans la famille des légumes d'hiver, on ne pense pas forcément aux salades et pourtant, frisées, scaroles et autres pains de sucre s'épanouissent et nous régalent pendant les saisons froides. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de vous raconter des salades, on va aussi les cultiver et même les cuisiner avec nos deux invités du jour. Tout d'abord, notre pote du potager, toujours dans les parages. Dès qu'il est question de légumes, c'est évidemment Xavier Mathias. Bonjour.
Bonjour. Bonjour à tous.
Ravi de vous retrouver.
Avec plaisir.
Sur le plateau dont on va déguster, vous êtes arrivé en plus avec des salades sous le bras, mais également un nouveau livre, Le potager d'un rêveur, aux éditions Terre Vivante. Incroyable le nombre de variétés là que vous nous avez apportées.
Alors là, j'ai été magnifiquement secondé, devancé presque, on pourrait dire, par Alessandra et, toutes les chicorées italiennes qui sont à tomber par terre.
Il se profile un petit match France-Italie, j'ai l'impression, puisque notre deuxième invité est notre italienne préférée, évidemment, Alessandra Pierini. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Les salades en général et les salades amères en particulier, c'est la grande affaire de la botte et ce sont des salades qui ont de plus en plus de succès en France. On va tenter de comprendre pourquoi. La Trévise, la Puntarelle, la Castelfranco, vous allez nous présenter et cuisiner pour nous tout ce petit monde passionnant et très coloré. Hein. On l'a dit d'ailleurs, une couleur qui
Absolument.
Ressemble à celle de votre pull, Alessandra.
Oui, ça fait toutes les nuances du rose pastel au pourpre, grenat, très chargé. Ça donne envie.
Violine, absolument. Pour m'accompagner jusqu'à midi, je suis enchanté d'accueillir aujourd'hui notre chroniqueuse, reportrice Zazie Tavitian et notre chroniqueur vin Jérôme Gagnès. Bonjour les copains.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Zazie.
Moi, je vais vous parler aujourd'hui de salade royale.
Salade royale, vous allez comprendre pourquoi. Moi, j'ai évidemment la solution de l'énigme. Jérôme.
Un cépage blanc modeste. Il y en a moins de 600 hectares en France.
Mais encore ?
Vous n'en saurez pas plus.
Ah bon ?
Non.
On doit donc attendre votre
Exactement.
Chronique.
Exactement.
Ouh là là, il va falloir être patient. Quelle salade aimez-vous à la maison ? Comment vous les cuisinez ? N'hésitez pas à réagir sur notre mail. On va déguster à radiofrance.com ou bien sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. On va déguster sur les ondes, mais on va déguster également en ligne. Pour tous les contenus de l'émission et les recettes de nos invités, franceinter.fr, à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Je voudrais d'abord commencer cette émission en saluant la mémoire de Marie Conquet, dont on a appris la disparition le 8 novembre dernier. Vous connaissiez sans doute, amis auditeurs, la voix de cette cuisinière inspirée qui est venue plusieurs fois au micro dont on va déguster pour dégainer les jolies assiettes colorées et bien balancées dont elle avait le secret. J'ai encore en bouche le goût d'une de ses délicieuses créations.
Alors, c'est un vitello tonnato 100% français, du veau,
oui.
Des framboises et des petits pois. Donc, à la place de la fameuse sauce au thon et anchois,
oui.
Je vous propose un genre de harissa à la framboise.
Oh.
Le mieux étant de prendre, du coup, tous ces ingrédients, c'est-à-dire les échalotes, les oignons nouveaux, ciselés avec des framboises, mm-hmm. du sel, du sucre et du piment. Vous mélangez tout ça. Vous laissez mariner au moins 12 heures. Le mieux, c'est même 24 heures pour que les saveurs s'amalgament et qu'il y ait un petit début de fermentation.
C'est génial, cette harissa fruitée.
C'est incroyable.
Prodigieux, hein.
Et le lendemain, donc, vous mettez tout dans une casserole avec un filet d'huile d'olive et il faut laisser compoter, mais vraiment très doucement, très longtemps. Presque, on l'oublie.
Mm-hmm.
Et puis, on prend une tranche de veau, un peu de harissa, quelques petits pois juste cuits.
Le vitello framboise à la harissa de Marie Conquet, servi le 22 mai 2022 sur ce plateau. Mais on se souvient également de son surprenant accord nougat et brie de mots. Vous vous souvenez, Zazie, vous en étiez ?
Oui, je me souviens très bien. C'était un mélange assez étonnant. Et c'était effectivement une émission qu'on avait fait ensemble sur le nougat, où elle avait fait ses nougats. C'était délicieux. Et bon, du coup, une pensée pour toute la famille de Marie.
Et son dessert aussi, chocolat, chartreuse, petit pois, qui valait des points. comme dirait mon ami Jérôme Gagnès. Marie était à chaque fois accompagnée de Mathieu Conquet, son mari, l'une des voix de la musique sur Inter, et ensemble, ils nous ont servi sur un plateau à maintes reprises leurs accords, mets et musique. Des platines de Mathieu aux petits plats de Marie, ces mariages musicaux et culinaires avaient même enchanté nos émissions. On va déguster pendant le premier confinement en 2020. On pense très fort à Marie, on pense à ses amis, sa famille, ses enfants, on pense aux équipes du comptoir Les Résistants, hein, le restaurant parisien où elle officiait. Et on adresse aussi évidemment à notre ami et collègue Mathieu toutes nos condoléances et nos pensées affectueuses. Mathieu écrivait hier sur son compte Instagram, sous la photo d'une Marie rayonnante, un nuage noir a fini par l'emporter, mais chacun retiendra la lumière qui émanait d'elle. Le Jardin, une splendide chanson où Pomme cultive sa mélancolie.
France Inter, François-Régis Gaudry, on va déguster.
Quelque diversité d'herbes qu'il y ait, tout s'enveloppe sous le nom de salade, nous rappelle Montaigne dans Les Essais. Tâchons d'y voir plus clair. Deux genres l'emportent, les chicorées et les laitues. Les chicorées sont toujours un peu amères, les laitues parfaitement douces. Les chicorées semblent se défendre, tentant de résister vainement aux dents du gourmand. Les laitues fondent littéralement, se délitent presque dans la bouche, sans aucun effort à fournir. Des deux, qui croyez-vous qui l'emporte et obtienne les faveurs du public ? Les laitues, bien sûr. Et pourtant, ce n'est pas faute de tout faire pour leur apporter un peu de douceur à nos chicorées, que l'on va même jusqu'à blanchir pendant plusieurs jours avant de les livrer aux joies de la table. Elles perdront alors leur pigment vert, mais gagneront nettement, il est vrai, en douceur. Seule une petite pointe d'amertume discrète nous rappellera qu'elles sont bien des chicorées. En voilà un extrait de votre prose qu'on aime tant, Xavier Mathias, issu de quel bouquin ?
Alors, c'est un petit mix, mais c'est dans La vie érotique pas mal, ce texte-là. Voilà. La vie érotique de mon potager chez Terre Vivante.
Alors, on préfère a priori les laitues, enfin a priori, moi je m'inclus pas dans le « on », mais on va dire que le grand public préfère plutôt les laitues, mais c'est précisément aux autres salades, les salades amères du genre chicorium qu'on va s'intéresser aujourd'hui. On a titré cette émission, Xavier Mathias, salade d'hiver, salade amère, est-ce qu'on a bien fait ? On a raison sur la saison ?
Alors oui, bien sûr, on pourrait produire des chicorées à un autre moment de la saison. On n'est pas obligé de les produire en hiver. On a des scaroles qu'on pourrait tout à fait produire pour le printemps, par exemple. Mm-hmm. Néanmoins, ce qui est vrai, c'est qu'à la différence des laitues, elles tiennent bien le choc en hiver. Et donc, on a raison, par contre, je trouve, de les réserver à cette saison-là.
Est-ce que le froid a un effet sur la texture un peu fibreuse de ces chicorées, mais également sur leur amertume?
Oui, il a forcément un effet. Souvent, les stratégies des plantes qui tiennent au gelé, c'est d'évacuer une partie de leur eau et de concentrer leur sucre. On a ça beaucoup chez les choux, par exemple. Donc, effectivement, chez les chicorées, on a, notamment si on prend l'exemple de la pain de sucre, elles sont plus douces, incontestablement, après une première petite gelée. N'allons pas les mettre au congélateur, c'est beaucoup trop brutal. Et en fait, elles n'ont pas le temps d'évacuer, c'est juste que ça les congèle. Donc c'est vraiment un froid naturel qui va leur faire du bien.
Donc, si on résume jusqu'à maintenant, on a compris qu'il y a la grande famille des salades qui appartient aux Astéracées. D'un voilà. côté, il y a les laitues, de l'autre, il y a les chicorées. Chicorium, on va s'intéresser, on l'a compris, à ce genre. Mais alors, quelle galère pour s'y retrouver. On aimerait un peu que vous nous dressiez la généalogie de ces chicorées.
Je vais commencer par m'excuser déjà, parce que je le fais pas exprès, mais c'est vraiment très compliqué. Donc on a deux
En gros, vous nous racontez qu'on va perdre la moitié de nos auditeurs en route, c'est ça ?
Ah oui, je pense. Une bonne moitié, si tout va bien. Rapidement, on a deux espèces rattachées à ce genre. Donc on a les Cicorium dites sauvages, les indibus, et les Cicorium andivia. N'allons pas croire que les endives, qui sont des chicorées, appartiennent au groupe Andivia. Ce serait beaucoup trop facile. Et les Cicorium intibus, chicorées sauvages ou amères, en fin de compte, on fait tout pour qu'elles soient plus amères, et elles sont surtout pas sauvages, mais cultivées.
D'accord.
Donc voilà, tout ça est bien compliqué, en fait. Donc, retenons quand même deux groupes essentiels. On a les intibus, qui sont les, on va dire, les sauvages, et les andivia, auxquels appartiennent, par exemple, les scaroles, ou les frisés, qui sont pas des plantes vivaces et dont on peut pas jouer aussi bien qu'on joue en Italie sur le genre et l'espèce Cicorium intibus, qui sont des plantes vivaces. Et là, attention, on peut jouer sur les repousses et c'est vraiment intéressant.
Donc, Cicorium andivia, qui est une première branche de chicorée, mais sans les endives.
Voilà.
Rassurez-nous, les endives, on va pas en parler, on a déjà consacré à ce légume plusieurs émissions.
Je vous remercie.
Rassurez-nous, l'endive est quand même une chicorée.
Ah oui, 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 l'endive est une chicorée. Oui.
Mais pas de cette branche endivia.
Ah, c'est une intibus, oui.
C'est ça. Ouais. Et d'un autre côté, les intibus chicorées sauvages, mais qui ne le sont pas du tout, puisqu'elles sont cultivées.
Ah bah à l'origine, elles ont dû être sauvages, mais ça fait longtemps qu'elles ne le sont plus dans nos jardins, en fait, et sur nos étals. Et effectivement, en France, on a vraiment privilégié ce groupe avec des endivia, par contre, avec scarole et frisée, qui sont vraiment des endivia très privilégiés. On a lapin de sucre dans les intibus, mais on n'en a pas tant que ça, en fait.
Elles n'ont pas trop la cote, ces salades amères, à commencer par la scarole et la frisée. Que se passe-t-il chez le consommateur français ?
Moi, j'ai tendance à être un petit peu dur. Pardonnez-moi, mais c'est un petit peu comme avec les poivrons, par exemple. C'est-à-dire que on est. J'ai un ami chef qui disait, mais c'est une société qui s'infantilise et les enfants aiment le sucre et pas la mer. Et on s'aperçoit qu'en Italie, on est très très proche de la mer et que la saveur amère a disparu de nos assiettes.
Et ben voilà, on en est là. Et le paradoxe, c'est que effectivement, on rejette. C'est-à-dire que si vous mettez sur l'étal d'un maraîcher un samedi matin ou un dimanche matin des batavia, des sucrines, des scaroles et des frisées, on sait les salades qui partiront le plus vite. C'est les plus douces. C'est les batavia, les sucrines, et on aura tendance à rejeter un peu la scarole, la frisée précisément pour leurs notes amères. Et le paradoxe, c'est qu'en même temps, les Français sont en train de se jeter sur toute une famille de chicorées, les salades amères italiennes. Comment vous l'expliquez, Alessandra Pierini ?
Bah, disons déjà, c'est quelque chose qui est très 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 joli à voir. Ce sont vraiment des fleurs d'hiver qui se mangent. Et quitte à avoir de l'amertume, au moins qu'elles soient belles, jolies, agréables. Comme on peut voir déjà sur ce plateau, elles ont toutes plein de jolies formes et aussi de jolies couleurs. Et puis elles sont présentes, bien sûr, comme disait Xavier, en Italie depuis déjà l'époque des Romains. Donc on avait l'habitude de manger, bien sûr, des sauvages. Mais petit à petit, c'est tellement rentré dans l'histoire de la gastronomie. Et pas seulement, on utilisait les chicorées, par exemple, énormément au Moyen-Âge, quand il y a eu vraiment la poussée un petit peu du monachisme. Et dans tous les couvents, on le donnait à manger à tous les repas, déjà pour sauver son âme, parce que c'est une salade dépurative. Et de cette façon, on arrivait à purger un petit peu toutes nos vies terriennes pour essayer de sauver notre âme à travers les chicorées amères.
Donc les salades amères avaient à la fois une fonction dépurative et presque spirituelle.
Spirituelle, absolument. C'était quelque chose. Et puis c'était dans les couvents à l'époque qu'on préparait énormément d'alcool, de liqueur et de sirop à base de chicorée. Et en plus aussi, on a créé à partir de la racine, dont tout le monde sait, la racine de chicorée, un succédané du café qu'on utilise encore aujourd'hui.
Il est sous nos yeux, ce monde hivernal, et paradoxalement très coloré, panaché, avec des formes étonnantes, plus étonnantes les unes que les autres. Allez, un petit tour de table des spécialités, oui, majoritairement violine, que vous nous avez apporté.
Violine, c'est ça, en pourpre passé chargé. Celles qui sont plus claires sont peut-être aussi même plus jolies, mais elles sont vraiment beaucoup plus rares. Ce sont surtout des salades qui sont typiques du nord-est de l'Italie, c'est-à-dire de la région de Vénétie, dont les villes de Trévise, Padoue, Venise. Et il faut dire qu'en Italie, il y a bien 5 IGP de ces salades qui s'appellent toutes radicchio. On peut l'appeler aussi cicoria, mais c'est surtout le radicchio qu'on donne le nom à cette salade. Et ensuite, on donne généralement le nom de la ville de là où il est cultivé. On commence la saison avec le radicchio di Treviso, de Trévise. C'est d'abord la version précoce. Donc, qu'on récolte à partir du 1er septembre. Ensuite, le radicchio tardivo, le tardif qu'on ramasse plutôt au mois de novembre jusque maintenant. C'est vraiment la salade la plus typique de la région, l'orgueil de la ville de Trévise, parce qu'elle est vraiment particulièrement belle. Il a des feuilles lancéolées, assez étroites. Il s'appelle aussi spadone. Spada, ça veut dire épée. Donc ça, la forme d'une poignée, d'une épée.
Je trouve un air de poulpe. Quand vous
tout
la retournez,
ça fait un poulpe.
On a l'impression du poulpe avec ses tentacules.
Avec ses tentacules. Et d'ailleurs, il y a une excellente salade de poulpe avec Trévise tardive pomme de terre qui est absolument excellente. Et donc dans cette salade, c'est celle qui est la plus blanche de toutes. Hein. Il y a cette feuille lancéolée très 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 serrée et compacte. On arrive donc à avoir cette salade avec un blanchiment, donc une culture en forçage. C'est une salade dont il faut très beaucoup de temps pour la produire. Et c'est pour ça que c'est aussi une salade très chère.
Vous me la lancez comme un ballon de rugby. Allez hop, c'est parti. Et je voudrais la faire goûter à mon voisin Jérôme Gagnès, comme ça, cru. Bon, elle est pas lavée, mais vous n'allez pas vous intoxiquer. Non, puis en plus, en général, c'est plutôt bio hein, chez Alessandra Pierini.
Oui,
les pesticides ne sont pas les bienvenus. Allez-y et mesurez, racontez-nous le goût de cette salade. On rappelle que c'est la Trévise tardive.
Trévise tardive.
Je la mangerais complètement si je pouvais.
Il adore l'amertume, notre ami. Vous m'avez dit un truc très intéressant, cher Alessandra, en préparant cette émission. Il est affaire de couleur et de géographie en Italie.
Ah c'est oui. De façon générale, quand on a des radicchi, de ces salades donc amères rouges, ce sont plutôt des salades qui sont originaires du nord de l'Italie. Comme on a dit tout à l'heure, surtout du nord-est. Et quand on parle par contre de ces salades amères plutôt vertes, comme la scarola, la puntarelle, la catalogne qu'on a là sous les yeux, ce sont plutôt des salades qu'on retrouve dans le centre, dans le sud de l'Italie. Et surtout, toutes ces salades, on les retrouve surtout dans des recettes cuisinées.
Voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc au nord, on est plutôt dans le cru et dans le pourpre. Au sud, on est plutôt dans le cuit et dans le vert. Ça, c'est ça nous permet de bien comprendre la répartition de ces salades dans la botte. Xavier ?
Bah nous, on est un petit peu plus palo, hein, quand même. Je dois bien reconnaître et que avec nos frisés et nos scaroles, pour diminuer l'amertume, parce que c'est toujours l'objectif qu'on a. Hein. En fait, on va les blanchir en attachant les feuilles sur elles-mêmes, comme ça il n'y a pas de photosynthèse, elles sont blanches, plus tendres, moins amères, mais il y a quand même une petite amertume qui est présente, mais surtout moi je trouve que on est quand même bien fade, bien pâle par rapport à ce qui peut être produit en Italie.
Ce que vous êtes en train de nous dire, alors là c'est vraiment le maraîcher qui parle, la façon de réduire ou de tempérer l'amertume dans une salade que l'on cultive, c'est de la priver de sa photosynthèse.
Voilà, c'est ça. On l'empêche de fixer la chlorophylle et donc, à ce moment-là, elles sont plus tendres.
Et quelles sont les différentes façons ? Alors, on sait que pour les endives, en l'occurrence, leur culture se passe souvent en cave, hein, ou de manière opaque, enfin obscure.
Voilà, là c'est... Et sinon, le blanchiment pour toutes ces cicoriums, en fait, on le fait en attachant le feuillage sur lui-même, en le privant de lumière. Alors, on peut l'attacher avec une ficelle, tout simplement, quand on a une petite quantité. On peut mettre des cloches opaques aussi dessus, tout simplement. On peut mettre des tunnels noirs opaques au-dessus. Bref, tout ce qu'il faut, par contre, c'est que la lumière ne leur parvienne pas. Attention, quand on fait ça, on les rend très, très fragiles au gel.
Très bien.
Donc ça, il faut faire attention à ça.
Jérôme Gagnez.
Oui, j'avais juste un petit mot sur cette salade que je viens de goûter. Je pense à quelque chose, c'est qu'on parle beaucoup d'amertume. C'est vrai qu'elle est très franche dans cette salade. Mais peut-être qu'aussi on pourrait considérer que ça, c'est une sorte de condiment qu'on pourrait utiliser pour apporter quelque chose dans une salade plus large, dans une salade composée. C'est-à-dire que ça fait peur aux gens parce que c'est très amer. Mais en réalité, ça apporte d'abord une amertume magnifique, hein, de très grande qualité, très pure, très belle et très noble. Et ça, en fait, c'est aussi très intéressant. Moi, je mangerais le truc tout cru comme ça.
Bien sûr, mais puis il faut penser aussi que dans ces côtes lancelées, blanches, un peu épaisses et charnues, ça contient beaucoup d'eau. Donc il y a surtout ce qui vient, c'est rafraîchissant,
oui,
et vif.
Exactement.
Donc c'est ce qui balance, oui, absolument tout l'amertume.
Mais Jérôme Gagnez a raison dans l'idée qu'on peut commencer à apprivoiser l'amertume de certaines salades,
oui,
d'hiver en dosant de plus en plus fort quelques salades amères dans, oui, une salade de laitue ou de batavia ou autre, oui, salade.
Alors c'est un petit peu l'erreur de conception qu'on a globalement nous en France, c'est que salade c'est toujours monospécifique.
Oui.
C'est on prend une laitue, on prend une chicorée et on a tendance à pas savoir mélanger. Dans les salades d'hiver, par exemple, et on en parlera peut-être, on a la mâche qui, elle, est très douce. Alors, pourquoi pas, justement, apporter de la mâche. On est vraiment pile de saison. Pourquoi pas apporter de la mâche et un petit peu de chicorée amère. Au contraire,
et
c'est bienvenu.
Et un croquant, en plus. Un contraste de texture aussi.
Eh bien, justement, le croquant, on va l'expérimenter tout,
oui,
de suite, puisque Alessandra s'est levée. Elle est allée au micro du plan de travail dont on va déguster.
C'est ça.
Petite
côté
salade
cuisine.
En direct. Alors là, vous allez jouer une seule variété. On n'est pas dans le mélange de salades, mais en revanche, on va voir votre stratégie pour tempérer l'amertume du radicchio.
Tempérer l'amertume. Là, je vais jouer avec une salade ronde qui est la chioggia, donc tardive de saison. Mais on peut, bien sûr, la remplacer avec une autre variété de radicchio. Là, je prends celle-là parce qu'elle est toute jolie, toute frisée. Et en plus, c'est celle qui est le plus panachée dans les couleurs. Autant de blanc que de rouge, on peut dire.
Et c'est désormais des salades qu'on trouve très facilement chez Primeur.
Très facilement. Et surtout celle-ci. Hein, c'est, disons, celle les plus abordables aussi à un prix. Je l'ai coupée en lanières. Donc, je vais déposer ces feuilles dans un saladier. Ensuite, j'adore les associer avec du fenouil. Il y a cette petite touche anisée, mais le fenouil. Je l'ai d'abord coupé à la mandoline très très fin. Je l'ai laissé un tout petit peu macérer dans du citron de Syracuse notamment. Ça va donner cette petite saveur qui va être très importante dans la salade. Ensuite, je pris une bonne orange très douce.
Ah.
Je l'ai pelée à vif. Mm-mm. C'est une orange sicilienne, celle-ci. Pelée à vif. J'ai coupé en rondelles. Les rondelles, je les ai découpées en quatre. J'en ai fait donc des petits morceaux que je vais donc rajouter dans le saladier avec
petit
le fenouil
d'orange
et le radicchio. Ensuite, j'assaisonne avec le jus d'un demi-citron.
Mm-hmm.
Comme ceci. De la bonne huile d'olive. on fera pour 4 personnes bien 3 cuillères du sel, du poivre et ensuite des copeaux de parmesan.
Ah.
Les salades
italiennes de bout en bout, cette salade.
En bout. Les salades d'hiver vont très bien avec nombreux fromages.
Mmh. Splendide.
Et voici.
Et là, moi, j'ai bien compris la stratégie d'Alessandra Pierini, ou tout au moins, je ne l'ai pas goûté, mais je devine. C'est, encore une fois, de contrebalancer l'amertume de cette Trévise Chioggia.
Chioggia, c'est
Chioggia,
ça. Chioggia,
absolument.
C'est une ville qui est à côté de Venise.
Avec le côté sucré.
Parfumé de l'orange.
Acidulé de l'orange.
Acidulé. Et en même temps aussi, le fenouil qui va se rapprocher un petit peu par texture. Donc, il va tenir avec le radicchio qui est bien assez coriace, mais qui s'adoucit en fait avec le jus de citron et avec le jus de l'orange.
Oh là là, alors là, on veut, Alessandra, pour ensoleiller ce plateau, que vous nous fassiez la description de cette salade en italien. Ça donnerait.
Allora, insalata di radicchio di Chioggia. Con arancio e finocchio.
Et vous avez oublié
parmigiano.
Et jus de citron, c'est ça, parfait.
Ah oui, voilà, vous voulez vraiment tout le détail. Vous ne voulez pas que le titre. C'est bon, on va écrire un livre alors.
Il va circuler autour de ce plateau cette magnifique salade assortie à votre pull violet, cher Alessandra. Un grand merci. Bah, c'est Jérôme Gagnès, tiens, qui va tout simplement tenter l'accord avec le vin mystère qu'il nous a apporté. Et en attendant, je vous propose, eh bien, une chronique royale.
On va déguster. Sur France Inter.
Pour cette chronique, chers Zazie, vous avez pris le RERC depuis Paris, direction Versailles, dans les Yvelines. Tiens, je commence à comprendre.
Oui, François-Régis, vous le savez, l'Île-de-France a été l'un des berceaux de la production de salades. Mm-hmm. Aujourd'hui, on y cultive 5% des salades françaises. Bon, là, je fais un peu ma faillotte, ça, je l'ai lu dans votre nouveau livre « On va déguster Paris ». Mais en faisant mes recherches, je suis aussi tombée à plusieurs reprises sur cette information surprenante. Louis XIV adorait la salade et en dégustait de toutes sortes, été comme hiver. Je me suis dit quoi de mieux pour vérifier cela que d'aller directement à la source. Donc j'ai été au potager du roi, le jardin fruitier et potager de 9 hectares créé par le roi Soleil. À l'époque, son intention était sans doute de pouvoir se nourrir, lui, sa famille et la cour. Mais surtout, il voulait créer un modèle culturel innovant que d'autres pourraient suivre. Et pour ça, il a fait confiance à Jean-Baptiste de la Quintigny, un agronome et le créateur de ce jardin. Et aujourd'hui, le potager du roi, il est géré par l'école du paysage et c'est son directeur adjoint Antoine Jacobson, en charge du potager, que je suis allée rencontrer. Alors je lui ai posé cette question, peut-être un peu simpliste pour un agronome et historien aussi érudit que lui, mais je voulais en avoir le cœur net. Est-ce que Louis XIV aimait vraiment la salade ?
Je pense qu'au XVIIe siècle, les salades prennent un rôle très différent qu'auparavant et deviennent l'accompagnement principal ou les accompagnements principaux du roi. Donc du service le plus prestigieux du service à la française. Dans ce sens-là, oui, Louis XIV raffole de salades. Au XVIIe siècle, c'est un peu ce qu'on a là devant nous. On a une série de choses où on voit que, moi je vois, peut-être vous avec votre œil un peu moins, je vois des chicorées, je vois des restes.
Ah,
feuilles de chêne rouge, de feuilles de chêne verte. Je vois à côté du Mizuna, du Mibuna. Je vois pas loin du pain de sucre, je vois d'autres chicorées et je vois de la clétonne, je vois de la pimprenelle à côté. On a toute une série de salades qu'on va mettre tous ensemble. Alors après, on va les mélanger avec différentes proportions. On va aller à chercher des fleurs de bourrache bleue ou même des fleurs de chicorée bleue. On va mettre des tagettes. On va préparer des plats, des salades, des mélanges salés avec du vinaigre. Un peu d'huile, avec des couleurs, des formes, des textures et des goûts dominants différents.
Alors voilà, évidemment ici, quand on parle de la salade, on en parle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'était la même conception au XVIIe siècle. Donc c'est pas uniquement de la laitue, mais c'est tout un mélange qui comprend aussi des fleurs, des herbes, des chicorées.
On entendait parler justement de cette fleur bleue de chicorée hein, qu'on voit pousser au bord des chemins et des routes
et
qui est tout à fait consommable.
Qui a aussi sa place dans les salades. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une grande similitude avec la façon dont certains cuisiniers et cuisinières travaillent aujourd'hui. Ils utilisent ce que la nature leur offre au fil des saisons et font de l'assiette vraiment la photographie d'un territoire à un moment précis. Ce que j'ai voulu aussi comprendre, c'est comment de la Quintigny cultivait ses plantes à une époque où il n'y avait évidemment pas de serre chauffée ni d'engrais.
D'abord, il protégeait avec de la paille ou avec du tissu. Ensuite, il abriter. Là, on est, le vent nous arrive. Alors lui, il allait abriter au coin d'un mur pour pas qu'il y ait de vent. Ça va pas être une grosse production qu'il réussit à faire. Faut quand même pas se dire que c'est pour des centaines de personnes. Et ensuite, il va utiliser genre ce qu'on appelle des châssis. Il va appuyer un châssis de fenêtre contre le mur et avoir la plante en dessous et le protéger, comme construire une mini-serre, une petite maison. Et pour les salades, plus spécifiquement, la Quintini va utiliser la technique très connue de la couche chaude, c'est-à-dire un andin, un long tas de fumier, généralement de cheval, très pailleux, qu'il va tasser, arroser un tant soit peu, pas beaucoup, tasser pour que ça soit bien compacté, ça va rentrer en fermentation, la température va monter jusqu'à 69, même 70 degrés. Une fois que la température baisse un peu, il va recouvrir d'une couche assez épaisse de terreau et il va semer ou planter. Semer, c'est la graine, planter, c'est prendre un plant qu'il a déjà préparé ailleurs. Et donc, les plantes vont pousser là. La difficulté et une des innovations de Jean-Baptiste de la Quintini, c'est de travailler sur précisément quelle plante il utilise. Ce n'est pas juste une salade, c'est celle qui va bien pousser quand il fait chaud, ou encore plus important, celle qui va bien pousser quand il fait froid.
Alors aujourd'hui, il n'y a toujours pas de serre chauffée, mais les tunnels ont remplacé les châssis. Il y a évidemment encore ce soin apporté à la sélection des variétés. Et ce qui est passionnant, et on le comprend très bien quand on va au potager du roi, c'est que tout ce savoir a été transmis au fil des siècles en intégrant aussi la nouveauté. Et c'est d'ailleurs ce que faisaient de la Quintini et ses jardiniers au XVIIe. Antoine Jacobson m'a dit cette phrase que j'aime beaucoup. Un patrimoine et un bien commun où chaque génération doit choisir ce qu'il est important de garder.
Zazie, ce qui m'étonne, c'est que vous soyez revenu les mains vides de ce potager du roi. Que se passe-t-il ?
Alors, vous me connaissez, François Régis, j'ai bien essayé de gratter quelques feuilles et j'ai donc demandé à l'agronome comment composer une salade digne de Louis XIV.
Il me faut quelques grosses feuilles de base. Donc, je prendrai quelques feuilles chez Corée, pain de sucre. Ensuite, je me dis, voilà, j'ai un fond très vert, il me faut l'égayer un peu. Donc, j'irai chercher du Chioggia ou de la laitue feuille de chêne rouge, pour donner d'autres couleurs. Et je me dis, d'accord, j'ai du vert, j'ai du rouge, c'est pas mal, mais si je regarde autour de moi, j'ai des belles fleurs bleues, que ça soit celle du chicorée ou celle de la bourrache, et je le mettrai dessus. Sur ça, pour faire très 17e siècle, j'arroserai avec un petit jus d'orange amer, recouvert d'un peu de sucre. Donc là, j'ai de l'amer, j'ai de l'acide et j'ai du sucré. J'ai vraiment les goûts du XVIIe siècle.
Est-ce que j'ai le droit d'en cueillir une et de vous en acheter ici ou...
On ne veut pas reproduire les systèmes d'Ancien Régime.
Ah, d'accord, très bien, j'ai compris.
Pas de privilège. C'est bien ça, très érudit Antoine Jacobson. Pas méga généreux, hein, faut bien le dire.
Non, mais du coup, je suis restée éthique et je suis passée par d'autres réseaux, c'est-à-dire les primeurs bio en bas de chez moi. Et je vous ai fait cette salade. Donc, dans la salade que vous avez dans votre assiette, il y a donc du pain de sucre, de la trévise, un peu de radicchio Castelfranco, quelques feuilles de chêne et des fleurs de pensée et de souci. Ça, c'est Manon Fleury, que vous connaissez bien, qui me les a fournies.
Salut Manon et merci.
Et j'ai arrosé le tout d'un jus d'orange et d'un peu de sucre. Alors, au XVIIe, c'était du pain de sucre que l'on râpait par-dessus. Moi, j'ai pris un sucre non raffiné, Muscovado.
Muscovado ?
Oui, non, Muscovado.
Muscovado.
Un sucre des Philippines. Ouais, j'ai bien vérifié.
Ok, non, très bien.
Bien vérifié.
Parfait, vous voulez vous piéger, mais j'ai pas réussi.
Il existe.
Attendez, et vous nous la servez, cette salade ?
Oui, je vous la sers et c'est beau, hein.
Mais c'est alors réaction salade quand même dans l'esprit du XVIIe siècle.
C'est magnifique. Moi, j'adore l'assaisonnement. C'est très délicat, très raffiné. Et je trouve qu'en fait, si cet assaisonnement c'était sur une salade toute simple, une simple laitue, il passerait un peu inaperçu. C'est que l'amertume, en fait, délicate en arrière-goût de ces salades qui donne du ton aussi à toute l'assiette.
Xavier ?
Moi, je trouve qu'on échappe au drame de la vinaigrette, parce que la vinaigrette est un drame qui cuit tout, qui abîme tout. Et là, c'est vraiment génial, parce que avec un assaisonnement comme celui-là, on garde vraiment, effectivement, le croquant, le léger amer, qui n'est absolument pas gênant. C'est très, très bon.
Jérôme Gagné, c'est pas trop gêné par cette petite touche de sucre. En général, vous aimez le sucre, mais qu'au chapitre
non,
dessert.
Je tiens absolument à insister sur la très grande justesse de cet assaisonnement, de très haut niveau. Parce que ça fait une assiette qui ça magnifie l'amertume, ça l'enrobe un tout petit peu, ça respecte le vin, c'est extrêmement réussi. J'ai terminé mon assiette.
Petite anecdote au passage. Pain de sucre, la salade, et là vous nous parlez d'un pain de sucre, le vrai sucre de canne, complet.
Oui, ben c'est sucre, c'est pain de sucre en forme cylindrique qui était plus facile à transporter, j'imagine, et qu'on râpait au XVIIe siècle. Et le nom de cette salade vient de cette forme cylindrique de ces pains de sucre.
C'est ça. Et en général, on contrebalançait justement l'amertume de cette salade amère en râpant un peu de sucre dessus. C'était le produit par excellence. Voilà, on s'est téléporté 4 siècles plus tôt grâce à vous. Merci beaucoup.
Merci. Ah, merci à vous. Et enfin, merci pour tous ces compliments sur ma salade royale. Et je vous recommande vraiment d'aller visiter le potager du roi. Il y a des visites organisées avec un conférencier. C'est vraiment très intéressant. Vous pouvez aussi vous procurer le livre « Instructions pour les jardiniers, fruitiers et potagers » de Jean-Baptiste de la Quintigny, qui est publié aux éditions Actes Sud et préfacé par Antoine Jacobson.
Un grand merci Zazie Tavitian pour cette très belle salade et cette belle chronique. Dans un instant, on va continuer à explorer le monde des chicorées avec d'autres recettes d'Alessandra Pierini et même une surprise. Cotta, cuite. Cotta. Ouais. De la salade cuite, c'est possible. On va en parler avec nos invités. C'est Laurent Thomas qui mitonne cette émission derrière la vitre de la régie avec Alexandre Chenet et Fabrice Rivaud. La programmation musicale est toujours signée de Djoubaka. Bon appétit sur France Inter.
My love, your devotion. Perfect storm set the stain in motion. Infatuation took me by surprise. Now I see nothing when I look into your eyes. Give a little time, space to breathe, little room, baby, to remember me. A little time for us. The guidelines, baby, the only thing that's real. Oh, 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 oh. What kind of woman would want to shame a man after I did everything, all that I can? As the years gone by, we've grown with the pain, but I just can't keep standing in the rain. Give a little time, space to breathe.
De Gabriels, salade d'hiver, salades amères au menu de notre émission du jour. Cher Xavier Mathias, un petit mot quand même sur votre actualité, votre nouveau livre, cher Xavier, après le potager d'un frimeur. Voici le potager d'un rêveur, votre nouveau livre des éditions, je reprends, aux éditions Terre Vivante, où vous contemplez, avec votre plume toujours aussi touchante et farceuse, toutes les merveilles du potager, légumes, fleurs, spontanées, petits peuples de l'herbe. On apprend des dizaines de choses à chaque page sur l'oignon patate, la griffe du diable, le chervi, la mauve de Mauritanie. Ça fait un moment que je m'intéresse au potager, mais vous réussissez à m'instruire à chacun de vos livres avec franchement des curiosités végétales tout à fait intéressantes. Ce livre est un savoureux cabinet de curiosités. Vous êtes d'accord avec moi ?
Ah, je trouve que c'est très gentil, moins gentil que votre préface qui est très très belle et un grand merci, mais vraiment oui, le truc c'est passer de la frime au rêve, c'est normal, ou alors on a raté une étape quoi, si on reste dans la frime tout le temps. Et donc voilà, je voulais vraiment partager cette idée que il y a quand même un côté au potager, on a cette chance, on peut être actif et contemplatif.
Actif, les deux. C'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est à la fois l'effort, mais ce peut être aussi le réconfort à l'image de la photo de Xavier Mathias en couverture, quand même. Hein. On le voit en train de glander dans son potager. Alors, Dieu sait si vous y allez sur la billette et la cueillette.
Ouais. Et là, alors pour être honnête, c'est une photo un peu posée, hein, quand même. Il faut bien reconnaître.
Vous passez pas votre vie à dormir dans la paille.
Faudrait peut-être un petit peu plus. Voilà.
Et puis, je signale également un autre petit livre, toujours chez Ulmer, qui vient de sortir, dans la collection Résilience et bien, bien de saison. Produire des légumes d'hiver, même sans abri. Voilà, c'est l'enjeu de votre livre et c'est possible.
Oui, tout ce qu'on a sur le plateau, c'est sans abri, quoi. Donc, alors, on a ce réchauffement climatique assez dramatique qui nous permet effectivement de prolonger la saison. Et on est au potager du roi où il y a vraiment une action primeur. La Quintini a vraiment travaillé beaucoup sur les primeurs. Mais peut-être que avec ce changement climatique qui est là, on devrait travailler sur le tardif maintenant, essayer d'être le plus long possible dans la saison, puisque c'est possible.
Eh bien, très bien, on va évidemment s'intéresser à ces évolutions au potager liées au changement climatique. Zazie, on va lui donner la parole dans un instant, car les questions se bousculent sur nos réseaux sociaux et sur le mail de l'émission. Mais annoncez-nous juste à quelle sauce on va être mangé, chère Alessandra, pour la prochaine salade.
Je vais préparer une salade qui associe la délicatesse de la poire, le piquant du gorgonzola, la gourmandise de la noisette et le croquant du radicchio de Trévise tardive.
Coup d'envoi, vous pouvez y aller et on déguste dans une minute. Zazie, des réactions?
On a beaucoup de réactions, j'ai l'impression que nos éditeurs ils sont pas du tout représentatifs de la majorité de la population française qui aime pas l'amertume, parce que j'ai l'impression que tout le monde adore la salade amère.
Ah, tant mieux.
Il y en a beaucoup de recettes aussi, il y a Rémi qui nous donne une recette, il dit j'utilise les feuilles de radicchio Castelfranco dans des tacos de poisson, avec une sauce aux herbes et des cacahuètes pilées, les feuilles remplacent la galette, donc il utilise les feuilles comme tacos.
Bonne idée.
Et après on nous réclame aussi, on nous demande pourquoi on parle pas de roquettes, de tétragones.
Ah, parce qu'on se limite un peu au genre chicorée, mais on fera bien d'autres émissions, évidemment. Petite question aussi pour vous, cher Xavier, il y a pas mal d'auditeurs qui nous parlent d'une plante qu'on consomme partout en France et qu'on n'a effectivement pas évoquée dans cette émission, et pourtant, elle ferait bien peut-être partie du genre chicorium, c'est le...
Bah non, tout est piège, et même le pissenlit est un piège, en fait. Mais tout... Mais avec les chicorées, c'est vraiment très compliqué. On a l'impression que les Cataloniens, par exemple, sont des pissenlits améliorés. Eh ben non, pissenlit, on est bien sur Taraxacum officinalis. C'est un Taraxacum, ce n'est pas un chicorium, c'est une astéracée, hein, c'est la même
donc
famille.
Donc on n'est pas dans le genre chicorée.
Non, par contre, on est bien dans la même famille, c'est très proche, comme quoi on peut avoir des cousins, cousines qui se ressemblent beaucoup.
Sachant que pissenlit, c'est compliqué parce que c'est d'abord un nom vernaculaire qui sème à confusion,
confusion. C'est ce qu'on appelle un nom ambigu. C'est-à-dire que pissenlit, c'est exactement ça, c'est un terme vernaculaire en fait qui recouvre plusieurs espèces différentes. Mais on va dire que notre pissenlit commun, notre pissenlit des champs, lui, c'est bien Taraxacum, et même le pissenlit blanc à cœur plein amélioré, qu'on a cultivé à la fin du 19e, était bien Taraxacum.
Les Lyonnais s'insurgent sur nos réseaux sociaux. Vous ne parlez pas de la fameuse salade lyonnaise, peut-être bien l'une des plus connues en France. Je suis d'accord avec eux, hein, mais je suis pas du tout de parti pris. Salade lyonnaise, on rappelle, hein, c'est une salade d'hiver, puisqu'elle comporte de la frisée, du lard paysan qui est légèrement qui est coloré à la poêle, hein, un peu croustillant, un œuf mollet bien évidemment, quelques croûtons de pain éventuellement. C'était vraiment la salade paysanne par excellence.
Voilà, et sauf que on fait un petit peu rustre, un petit peu rustique comparé à tout ce que Alessandra nous décline. Effectivement, nous les chicorées, là je vous parle de souvenirs d'enfance, hein, c'était vraiment une écrasée de pommes, une chicorée frisée avec une écrasée de pommes de terre encore fumante, donc qu'on posait sur la chicorée, qu'il a cuisé légèrement, un petit peu de lard, vinaigre de cidre, puisque effectivement on n'avait pas ces agrumes dont nous parlait Alessandra.
Donc on cherchait un peu la douceur dans le vinaigre,
voilà,
de cidre.
Et en fait, on aimait beaucoup qu'elle soit confite, c'est-à-dire qu'elle était assaisonnée longuement avant d'être consommé, ce qui fait que le vinaigre, en fait, participait de la cuisson et d'attendrir un petit peu la feuille, quand même.
Et même, finalement, le chaud du lard paysan au contact de la salade frisée était aussi une façon d'attendrir la feuille très fibreuse.
C'est exactement ça. C'est toujours une espèce de cuisson. Alors effectivement, parce que quand on les cuit réellement, elles fondent. Il n'y a plus rien dans le plat.
Ça réduit beaucoup.
Mais en mettant quelque chose de chaud dessus, on permet aussi beaucoup d'attendrir, moi je trouve.
Révélation sur cette salade. Qu'est-ce que c'est que cette sauce?
Moi, j'adore. J'ai adoré la préparer parce que, en fait, tous les radis, ces salades amères, malgré leur personnalité et leur goût bien prononcé, ils se marient vraiment avec un grand nombre de produits. Aussi bien fromage, fruits secs, des fruits. Donc, on peut faire des combinaisons exceptionnelles. Donc, ici, j'ai mis la salade de trévise tardive, le radicchio tardivo, avec du gorgonzola affiné que j'ai coupé en petits cubes. J'ai assaisonné avec des éclats de noisettes du Piémont. Et après l'assaisonnement, j'ai mixé une poire conférence bien mûre avec une cuillère de miel, un miel un peu doux, 3 cuillères d'huile d'olive et une pincée de sel. Ça fait cette onctuosité, cette sauce, je trouve, très 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 gourmande.
Le sucre de la poire, l'amertume de la trévise.
La salade, c'est délicieux.
C'est vraiment une très très belle recette que nos auditeurs peuvent évidemment retrouver, puisque vous êtes généreuse, sur franceinter.fr, à la page « On va déguster ces recettes de salade » signée Alessandra Pierini. Il y en a un qui a dégainé nos verres, qui a débouché sa bouteille, qui va tenter un accord avec les prouesses culinaires d'Alessandra. Eh bien, c'est Jérôme Gagnès et son cépage mystère.
On va déguster.
C'est pas cool les gars, vous avez fait de l'alcool alors que nous on crève la dalle.
Quoi ? C'est pas cool!
Mais j'ai dit que c'était pas cool!
L'alcool, c'est pas cool!
C'est pas cool!
Alors pourquoi il y a le mot cool dans l'alcool? Ça devrait s'appeler l'alcool!
Sur France Inter.
C'est un copain, ça?
C'est une petite surprise de Laurent Thomas pour le jour.
C'est très gentil, merci beaucoup.
Alors, vous allez nous parler alcool?
Je l'avais pas envisagé sous cet angle, mais pourquoi pas? Alors, notre cépage blanc modeste, moins de 600 hectares plantés en France. Alors je plante le décor, j'ai découvert ce vin, j'ai goûté ce vin dans une rencontre, j'avais l'impression d'être dans un village gaulois assiégé où il n'y avait plus que des irréductibles qui se réunissent un peu en secret. On était à Saint-Côme-d'Olt, donc Saint-Côme-d'Olt c'est, vous voyez le cul du monde c'est derrière, c'est un peu après.
C'est sympa pour les habitants de Saint-Côme-d'Olt.
C'est sublime, c'est dans l'Aveyron, c'est d'une beauté époustouflante, tout autour est magnifique, il suffit de lever la tête pour voir des paysages absolument extraordinaires.
On est en plein Aubrac.
On est au sud de l'Aubrac, pas très loin d'Espalion. Et là, vous avez des gars, tous plus fous, furieux les uns que les autres, passionnés de cépages modestes. Donc les cépages modestes, c'est les cépages qu'on rencontre de moins en moins, parfois de plus en plus, parce qu'il y a quand même des vignerons qui se remettent à en planter. Ce sont des rencontres qui ont été créées par Philippe Meyer, qui est bien connu de cette radio, donc que j'aime beaucoup, j'adorais ses émissions, et Jean Rosen. Et puis, André Derieux, que nous reçûmes ici, il y a quelques années, il y a 2-3 ans, les a rejoints et ils ont créé donc les rencontres de cépages modestes. Alors voilà, vous aurez le site internet de cette manifestation sur le site de notre émission. Allez voir, c'est absolument passionnant. Et donc là-dedans, je me balade et je goûte ce bourboulin.
Eh ben on y est, le bourboulin. Encore voilà un joli nom. Voilà. Rien que le nom se déguste.
Très joli nom. Alors le bourboulin, c'est un des fils du gouet. Alors le gouet, c'est un cépage. Vous savez le film Starbucks. Vous savez, le gars qui a 800 enfants. Bon, c'est un peu le Starbucks des cépages, le gouet. C'est-à-dire qu'il a semé à tout vent, on va dire. Et donc, c'est le papa d'énormément de cépages, dont le bourboulin. Alors, on connaît pas la mère, on connaît le père. Bon. Donc, le bourboulin, c'est un cépage qui est plutôt provençal. En tout cas, résolument méditerranéen. Et qui est un cépage qui est très intéressant parce que c'est un cépage. Alors, surtout avec le réchauffement dont on parle, en tout cas, le changement climatique que l'on évoque dans cette émission et que les vignerons et que tous ceux qui mettent les mains dans la terre constatent par eux-mêmes tous les jours, c'est un cépage qui est très adapté à la sécheresse. C'est un cépage qui est de maturité tardive, et c'est un cépage qui fait peu d'alcool. Globalement, la mariée commence à être très très belle. Donc évidemment, il faut s'intéresser à ce type de cépage, et ce d'autant plus que lorsque le raisin est mûr, ce qui est toujours mieux pour faire du vin, eh bien on a une jolie aromatique, comme vous avez pu le constater dans vos verres. Ou des notes florales assez élégantes, de la délicatesse avec des petites notes de poire, et puis parfois un peu de pomme verte. Voilà comment se présente le vin à nous, et ça fait et surtout un vin qui est fondamentalement méridional dans son expression gustative, en bouche, dans son toucher de bouche, puisqu'on a la rondeur et le gras qui viennent envelopper, qui est, c'est pas suave, mais c'est onctueux, c'est une caresse, et en même temps, il y a une très jolie amertume. Et c'est là où ce vin m'a séduit, et je pensais toujours à cette émission, je goûte le vin, je dis, mais le vin est devant moi. Ce vin-là sera très intéressant sur ces salades amères qui se caractérisent par leur amertume. Et je me suis dit, mais l'amertume fine de ce vin, présente mais fine, viendra, je l'espère, épouser l'amertume des salades.
On l'a constaté réussi, hein.
Sur toutes les salades qu'on a goûtées, sur celle de Zazie, sur la première d'Alessandra, on avait cette rencontre de ces amers très fins, qui était très intéressant, et un vin qui respecte la salade et finalement qui quand même sait se défendre et sait marquer un peu son territoire. Ça fait un très joli vin, ça vaut 9,60€, c'est produit par Mireille et Philippe Lelon, le domaine du Pêche d'André. Alors le Pêche, ça veut dire colline en occitan, et c'est un domaine qui est au cœur du Minervois, c'est 30 hectares qui sont amoureusement cultivés par Philippe et Mireille. Ce domaine est dans la famille de Mireille depuis 1701. Donc on peut dire qu'ils ont une petite expérience de la viticulture. Et Philippe, donc évidemment, se mariant avec Mireille, a épousé aussi ce domaine. Ça fait donc 30 hectares. Il y a beaucoup de cuvées, de cépages. Et il y a un travail que moi j'ai bien aimé dans ce domaine, c'est qu'il n'y a jamais d'élevage bois, c'est que des élevages cuves. On cherche vraiment à essayer de proposer un vin où le terroir et le cépage arrivent presque dans leur nudité, mais à la fois avec l'envie que l'un et l'autre se révèlent, et que l'un et l'autre révèlent l'autre. Et ça fait des vins comme ce Bourboulinque. On a le cépage dans sa nudité, mais avec sa vraie empreinte méditerranéenne du Minervois, en plein cœur duquel on se trouve quand on est au domaine. Et voilà un très joli vin, et je trouve que ça accompagne très bien les salades.
Et la bonne nouvelle, c'est que c'est un vin assez accessible.
Et que c'est un vin qui est à 9,60€ au domaine, donc c'est très accessible. C'est en bio, c'est un couple de vignerons formidable. Ça s'appelle le Bourboulinque. C'est un 2021, domaine du Pêche d'André, Mireille et Philippe Lelon.
Merci Jérôme Gagnaise. Et ce Bourboulinque du Minervois pourrait tout à fait s'adapter à la dernière recette de l'émission. Malheureusement, on arrive un peu à la fin de l'émission, mais c'est une recette, rien que son nom en italien vaut la peine d'être dégustée.
La scarola imbottunata, ça veut dire une scarole braisée, farcie. C'est une recette typique napolitaine. Nous avons la scarole typique de Naples juste sous les yeux. On coupe la salade en deux, on la farcie avec des olives, des anchois, des raisins secs, donc pour la douceur. Certaines, ils y mettent aussi du pain toasté légèrement grillé, de la chapelure, parfois des câpres. On la referme avec du fil de cuisine.
Ah, donc il n'y a pas de vrai bouton.
Il n'y a pas de vrai bouton. Elle est boutonnée, mais avec une ficelle de cuisine.
Elle est ficelée, c'est ça.
Un mailloté un petit peu.
Et ensuite, elle est braisée.
Elle est braisée dans l'huile d'olive, un petit peu d'ail, des câpres. On la laisse braiser 10 minutes d'un côté, 10 minutes de l'autre, à petit feu, et c'est exceptionnel.
Et c'est ce qu'on peut manger dans les familles à Naples. Elle est où, cette scarole?
Elle est juste là, derrière nous.
Braiser les salades, en voilà. Ça, c'est une stratégie italienne qu'on a un peu perdue en France, cuire les salades.
Oui, et les cuire légèrement, pas les laisser baigner dans le jus pendant des heures, mais vraiment une cuisson super rapide, soit en mettant du chaud dessus, soit en les passant légèrement au chaud.
L'émission touche bientôt à sa fin, mais juste avant, je voudrais vous faire un petit faire-part de naissance. Je suis très heureux et très fier de vous annoncer la naissance d'un nouveau bébé. On va déguster Paris, presque 2 kilos de savoir et de saveur autour de la cuisine et de la gastronomie capitale. Alors évidemment, il y a un air de famille avec les livres précédents sur la France et l'Italie, mais il est différent par son format, et puis surtout c'est un guide avec plus de 2000 adresses de commerces de bouche, de bistrots, de boui-boui, de restaurants étrangers, de tables gastronomiques. Tous autour de cette table, vous avez participé à ce livre, puisqu'il y a plus de 150 contributeurs. Le terroir d'Île-de-France a été l'affaire d'Alessandra Pierini, l'histoire du maraîchage en Île-de-France, l'affaire de notre ami Xavier Mathias, Zazie Tavitian, vous vous êtes intéressé pour le livre à l'agriculture urbaine. Jérôme, qu'est-ce que vous avez exploré?
Moi, j'ai exploré les caves exceptionnelles de restaurants, de grands restaurants et de restaurants plus modestes, mais avec des caves exceptionnelles.
Voilà. Et un merci très particulier à Charles Patin-Aucoun et Stéphane Sollier, les deux rédacteurs en chef qui m'ont accompagné dans cette aventure de 2 ans. Merci aussi à Camille Menson et Marielle Gaudry pour avoir coordonné cette folle aventure. Et j'en profite pour vous annoncer la toute première dédicace de notre livre « On va déguster Paris ». Ce sera mercredi 23 novembre, ce mercredi à 19h, à la librairie ici, 25 boulevard Poissonnier, Paris 2e. On vous attend autour d'un buffet sympathique. Et vous allez voir, on va prendre beaucoup de plaisir à se rencontrer avec une partie de l'équipe qui a contribué à « On va déguster Paris ». C'est chez Marabout, avec les éditions Radio France évidemment. La semaine prochaine avec Pierre Coulon, nous évoquons les fromages fondus, emmental, gruyère, cheddar. On va s'en mettre jusque-là, un petit peu moins digeste que les salades d'hiver. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.